Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Jérémy Besset,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Dans le Harlem des années 30, elle était une icône. Quel destin incroyable que celui de cette Stéphanie Sinclair, élégante et distinguée, venue de sa Martinique natale, est devenue figure du banditisme new-yorkais jusqu'à croiser le fer avec Dutch Schultz ou Lucky Luciano. Dans le milieu, on l'a surnommée Queenie ou Madame Queen. Il faut dire que cette femme gangster impitoyable était la reine de la loterie clandestine. Elle fut aussi une des premières afro-américaines à oser affirmer haut et fort un féminisme qui allait se révéler fécond. C'est cette vie hors du commun, sur fond de musique jazz et de lutte pour les droits civiques, que nous racontent nos deux invités d'aujourd'hui dans un roman graphique en noir et blanc qui se déroule un peu comme un film de cinéma. Queenie, la marraine de Harlem d'Elisabeth Colomba et Aurélie Lévy, est un roman graphique donc paru aux éditions Anne Carrière, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
C'est vrai que votre récit est très cinématographique, on va y revenir dans un instant, et c'est peut-être pas tout à fait un hasard, Aurélie Lévy, parce que on peut dire que d'une certaine façon, votre histoire est née sous le soleil d'Hollywood ?
C'est exact. En fait, notre histoire, mon histoire...
Votre collaboration.
Notre collaboration. C'est vrai qu'Elisabeth et moi nous sommes rencontrés quand on avait une vingtaine d'années. On vivait toutes les deux à Hollywood. J'étais l'assistante de John Cusack, l'acteur. Je faisais mes premiers pas dans le cinéma. Elisabeth venait d'être révélée par Leonardo DiCaprio qui lui a proposé de faire des storyboards. Et donc, elle faisait les storyboards de Baz Luhrmann pour Roméo et Juliette. On avait des étoiles plein les yeux et notre amitié est née de notre amour, d'abord d'une reconnaissance mutuelle d'un parcours, d'affinité sur de cinéma, d'histoire. On adorait raconter des histoires ensemble qui ne voyaient pas toujours le jour, mais cette histoire est vraiment née si vous voulez, de la maman d'Elisabeth, parce que c'est elle qui lui a parlé de Stéphanie Sinclair.
Alors, racontez-nous, Elisabeth Colomba, oui. comment s'est passée votre rencontre, donc, par maman interposée avec
par
ce
maman
personnage?
Interposée. Alors, ma mère, qui est donc martiniquaise, est toujours un peu friande de personnages de la Martinique qui ont été un peu ignorés par l'histoire ou un peu comme ça, tombés dans l'oubli. Elle m'a parlé de Stéphanie Sinclair, il y a peut-être 5 ans de ça. Et au tout départ, j'étais pas très intéressée, j'ai pas fait attention à ce qu'elle disait. Et quelqu'un d'autre m'en a reparlé, donc il a fallu 2 personnes. Et ensuite, je me suis dit, bon voilà, c'est un personnage qui m'intéresse, et je suis notamment peintre, et je voulais en faire un portrait, un peu pour honorer sa mémoire. Mais lorsque j'ai un peu creusé son histoire, je me suis aperçue de son parcours incroyable, et j'ai voulu vraiment le raconter sur la longueur.
Donc un tableau, ça ne suffisait pas. Vous l'avez peint quand même, ce tableau, petite curiosité ?
Il n'est pas encore fait, mais il est sur la voie, sûrement. Et donc voilà, je voulais un peu utiliser un médium peut-être qui toucherait un peu plus de monde et élargir l'audience, on va dire. Et donc voilà, je pense que le roman graphique a été un médium assez naturel.
Et donc à ce moment-là, vous êtes dit, ben Aurélie Lévy est la personne idoine pour ce projet ?
Alors, ça s'est passé un peu différemment, mais oui, on va dire ça. C'est-à-dire que j'ai fait un peu ce qu'on appelle 5 planches d'essai. Et je les ai montrées à Aurélie, je lui en ai parlé. Et Aurélie a présenté le projet à son éditeur. Et son éditeur a sauté sur l'occasion, on va dire. Et donc, du coup, tout naturellement, on a collaboré sur le scénario parce que on a déjà collaboré avant et c'est une association qui marche assez bien entre
nous. C'est-à-dire que du temps d'Hollywood, Aurélie Lévy, vous aviez déjà travaillé ensemble ?
En fait, on écrivait des scénarios ensemble qui ne voyaient pas forcément le jour, mais ça fait un moment qu'on racontait ça ensemble. Et puis, vous savez, c'est collaboratif. C'est-à-dire que moi, je suis réalisatrice aussi. Je suis auteure, mais je suis aussi réalisatrice de documentaires. Je ne fais pas un film sans tout montrer à Elisabeth, et parfois elle me fait des notes de montage. Elisabeth a fait un court-métrage pour le Met, l'opéra. Je suis passée, pareil, je passe derrière en montage. Si vous voulez, même dans nos travails individuels, souvent je lui fais lire ce que j'écris avant. Voilà, on se fait confiance. Je pense qu'on a la même exigence vis-à-vis du storytelling. On a aussi des références communes. On aime à parler de la psyché humaine, mais aussi des histoires d'exil. On s'intéresse au même sujet et on est complémentaires dans le sens où Moi, si vous voulez, j'ai un profond respect, une grande admiration pour le travail d'Elisabeth, sa vision graphique, esthétique. Et donc, je sers volontiers sa vision esthétique. Et c'est pour moi une contrainte à la fois fructueuse et salvatrice aussi, parce que vous savez, quand on a une histoire comme celle de Stéphanie Sinclair à raconter, il faut un peu cadrer les choses et choisir, en fait, prendre des décisions en fonction de ce qu'Elisabeth avait ou non envie de dessiner, était salvateur.
Alors, vous aviez envie de faire du noir et blanc, Elisabeth Colomba, parce que, sauf erreur de ma part, vos tableaux, vos peintures sont plutôt très colorés, au contraire.
C'est plutôt coloré, oui. Alors, j'avais envie de faire du noir et blanc pour un peu un challenge. C'est aussi intéressant parce que ça donnait une patte un peu comme un film, un polar. Ça allait avec la même idée. C'est aussi du noir et blanc et on parle beaucoup, évidemment, de noir et blanc. Et ça se prêtait bien, en fait, à l'histoire. Et au derrière de l'histoire, je dirais. Et aussi, j'ai regardé beaucoup d'influences, parce qu'évidemment, je n'ai jamais fait de bande dessinée avant, mais je faisais du storyboard. Mais je voulais trouver un peu ma propre patte. Et donc, j'ai un peu lu des Frank Miller, du Mignola, enfin, tous ces auteurs qui utilisent Tardi, Alan Moore, From Hell, et tous ces auteurs qui utilisent le noir et blanc avec une incroyable dextérité. Et donc, j'ai un peu trouvé ma voix comme ça. The old babies walk along with rhythm in their thighs, rhythm in their feet, in their lips and in their eyes. Where do highbrows find that kind of love that satisfies? Underneath a hollow moon, there's no fields of cotton, picking cotton is taboo. We don't live in cabins like our old folks used to do. Our cabin is a penthouse now on St. Nicholas Avenue. Underneath our hollow moon, we just live for dancing. We're never blue and forlorn. That's why we Swatzes who are born, we shout hallelujah every time we're feeling low. And every sheik's all dressed up like a Georgia gigolo. White folks call it madness, but we call it hidey-ho.
Underneath the Harlem Moon et Tell Waters dans VMDN sur RFI avec Elisabeth Colomba et Aurélie Lévy pour leur album Queenie, la marraine de Harlem, paru aux éditions Anne Carrière. Queenie qui trône en majesté sur la couverture de l'album. Elisabeth Colomba, vous pouvez nous expliquer comment vous avez imaginé et dessiné cette couverture, en la décrivant bien sûr, puisqu'on est à la radio.
Oui, la couverture, donc c'est Stéphanie Sinclair assise sur un fauteuil, j'espère en cuir, évidemment, qui tient dans sa main gauche un revolver, mais un peu comme ça, d'une manière nonchalante.
Voilà, on a presque l'impression que c'est un jouet. Un jouet ou des cigarettes entre deux doigts, quoi. Mais c'est un... Je ne sais pas quelle est la marque du revolver, mais enfin, c'est...
Oh là là, je crois que c'est un Beretta.
Bon, voilà, très bien. Donc, on vous fait confiance, mais c'est vrai qu'on sent dans son regard la détermination du personnage, mais il y a effectivement cette nonchalance, cette élégance. C'était important que, dès la couverture, ces deux dimensions-là se retrouvent.
Ah, très important, parce qu'il faut cadrer le personnage tout de suite. Alors, c'est quelqu'un qui jouait beaucoup sur son image, qui voulait s'imposer, qui voulait montrer sa puissance tout de suite. Et il fallait vraiment attirer l'œil parce qu'elle est sur la bande dessinée, c'est le caractère principal, le personnage principal. Je dis souvent caractère parce que je mélange un peu le français et l'anglais.
Voilà, oui.
Je suis un peu Jean-Claude Van Damme.
Oui, mais elle a du caractère aussi, hein, en l'occurrence. Hein, ça tombe plutôt bien, de toute façon. C'est le moins qu'on puisse dire. Parce qu'il y a effectivement l'arme et le charme en même temps. temps, finalement, hein, dans ce
dessin. C'est aussi une façon d'asseoir aussi le fait que ce soit un gangster, Stéphanie Sinclair. Et là, on a parcouru la France avec le livre. À chaque fois qu'on va dans une ville, on dit, mais qui connaît Al Capone? Tout le monde lève la main. Qui connaît Stéphanie Sinclair? Donc, c'est quand même très insolite. Le destin de cette femme est insolite.
Et il y a cette ambiguïté, effectivement, dès le dessin de.
Puis il y a la carte à jouer aussi, sur la couverture. Elle est encadrée comme dans une carte à jouer parce qu'elle a vraiment joué ses cartes, d'une façon singulière. Et c'était un autre élément de langage qu'on avait envie de mettre en exergue.
Et la police d'écriture pour le titre. La police. Là aussi, vous l'avez pas choisi au hasard, c'est le mot qu'on peut se dire.
Donc la police d'écriture. Donc je ne vais pas prendre tout ce qu'on appelle le crédit.
Il faut rendre à César quand même, ce qui est. César.
C'est une graphiste qui s'appelle Cerise Hurter qui a décidé de la police, évidemment, avec. Notre accord, qui était inspiré évidemment des années 30, et qui nous met tout de suite dans cette ambiance.
Alors, on a parlé effectivement à l'instant du caractère du personnage, avec ce jeu de mots autour de l'anglais et du français. C'est vrai que ce caractère-là, cette volonté de faire, cette autorité naturelle, comment est-ce qu'elle l'a acquise, Stéphanie Sinclair, cette autorité naturelle-là? C'est la conséquence de sa jeunesse, Aurélie Lévy?
Écoutez, c'est une femme qui a surmonté beaucoup d'adversités. Son enfance, on la connaît peu. On la devine en regardant l'histoire d'autres femmes antillaises de cette époque. Elle a sûrement subi des abus.
Vous le suggérez, hein, d'ailleurs, parce qu'il y a des flashbacks dans la BD avec des planches qui sont en grisé, donc pas exactement dans la même coloration que les autres planches. Et on sent effectivement qu'il s'est passé quelque chose de très malsain. Mais c'est plus suggéré que montré.
Absolument. Et donc elle est partie assez jeune pour se retrouver à Harlem dans les années, on dira, entre... Qu'est-ce que tu dirais, Elisabeth, entre 10 et 15 Voilà. Et puis, elle va vraiment, si vous voulez, développer son business de loterie clandestine, qu'il faut expliquer peut-être aux auditeurs, était une affaire... très courante à l'époque.
Oui, les the numbers, Harlemites, comme on dit. Hein.
The numbers game, yes. Exactement. Voilà. Les Harlemites, avec une petite pièce, pouvaient parfois se retrouver avec 60 fois, ou si ce n'est une centaine de fois leur mise. Et c'était très important parce qu'à l'époque, les Noirs n'avaient pas accès aux prêts bancaires et aux crédits. Et donc, c'était une manière d'arrondir leur fin de mois, mais aussi de pouvoir accumuler des sommes d'argent suffisamment nécessaires pour acheter une voiture ou des biens plus importants.
Et il y a d'ailleurs une double page dans l'album à travers laquelle vous expliquez de façon à la fois très graphique, très claire et aussi avec un petit peu d'ironie quand même, Elisabeth Colomba, le système, hein, le système des numbers. Comment vous avez réfléchi justement il y a une dimension à la fois schématique et une dimension narrative.
On voulait aussi... on voulait expliquer la loterie d'une manière un peu plus ludique, tout en ayant des références toujours à la même époque. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire un film muet. Donc c'est aussi graphique, en mettant en scène des personnages un peu comme dans un film, puisque aussi c'est un clin d'œil à notre vie, puisqu'on vient du milieu hollywoodien. C'est de faire une parenthèse dans le récit, pour qu'on comprenne à chaque fois tous les enjeux. Il y a plusieurs doubles pages comme ça dans la bande dessinée. On comprenne à chaque fois les enjeux et pourquoi cette loterie a une telle importance et tient une telle place dans la vie de Stéphanie Sinclair, mais aussi chez les autres gangsters.
Protagonistes à Harlem, même en Amérique. On explique aussi la valeur de l'argent. On compare ce que gagne Stéphanie Sinclair, par exemple, au salaire du président de la République, du président des États-Unis.
Oui, Roosevelt à l'époque, hein, en l'occurrence, puisque ça se passe en 33.
Exactement. Et donc, c'est une façon, si vous voulez... En fait, on voulait écrire un récit captivant, une intrigue, un vrai polar, mais en même temps donner suffisamment d'informations aux gens pour qu'ils puissent vraiment comprendre l'époque.
Oui, parce que vous racontez le personnage à travers l'époque. On va y revenir. Le personnage arrive donc à New York à l'âge de 21 ans, hein, c'est ça, je parle sous votre
peut-être
contrôle.
Peut-être un peu plus jeune, on ne sait pas encore.
Un petit peu plus jeune. Ouais. Et vous la dessinez, Elisabeth Colomba, sur le bateau avec la statue de la liberté, comme ça, vu du pont du bateau, c'est presque une allégorie. C'est une image qu'on retrouve, ça fait partie du mythe américain. Ça.
Absolument, c'est une image iconique, je dirais, et je pense qu'elle a sa place parce que ça fait rêver tout de suite. Et c'est la première impression qu'on a, lorsqu'on arrive à Ellis Island, ou en tout cas dans le port de New York. Et c'est une image, effectivement, qui a toutes ses promesses.
Bon, elle s'installe à Harlem. Donc, une Martiniquaise qui arrive à New York et qui s'installe à Harlem, ça vous dit quelque chose?
Ça me rappelle quelqu'un.
Oui, voilà. Oui, bon, vous avez connu à peu près la même chose dans des époques complètement différentes et dans des situations, j'imagine aussi, complètement différentes. Vous le connaissez bien, le quartier de Harlem dans lequel se passe votre histoire?
Alors, je dirais que je le connais assez bien. J'habite toujours Harlem, maintenant. J'habite pas à côté de là où elle habitait, mais on fréquente sûrement les mêmes rues. Je foule les mêmes trottoirs, je dirais. Et donc, oui, je connais assez bien Harlem. Il y a toujours un peu cette même ambiance. Par exemple, au début de l'album, nous parlons de ce qu'on appelle un rent party. Ce sont des choses qui existent encore. Il m'est arrivé d'aller dans quelques-unes. Et si je peux expliquer
oui,
ce que
allez,
c'est.
Oui, allez-y. Donc, on voit effectivement Queenie qui sort de prison à ce moment-là et qui arrive dans un appartement où il y a des artistes.
Absolument.
Donc, l'idée, c'est de trouver des fonds, c'est ça? De lever des fonds pour aider les artistes.
Exactement. Ou alors pour payer tout simplement ce qu'on appelle son loyer. Donc, il y a quelqu'un qui reçoit plusieurs personnes et tout le monde comprend ce que c'est. Il y a de l'alcool qui est vendu. En l'occurrence,
on est à la fin des années de la prohibition.
Ah oui, donc ça aussi, il faut qu'on en parle. On est en 1933, donc l'alcool, il y en a pas encore beaucoup, et c'est aussi pour ça que les gangsters se ruent sur le business de Stéphanie. Et en tout cas, donc voilà, cette fête est un moyen pour chaque personne de payer son loyer à la fin du mois.
Alors il y a un endroit très important dans l'histoire de Harlem, c'est le fameux Cotton Club, un club qui a été longtemps réservé au blanc, mais où se produisent des musiciens noirs. Vous y êtes allé aussi, vous aussi, Aurélie Lévy?
Oui, bien sûr, on a fait. Et puis, vous savez, alors étonnamment, le film de Coppola a été fait dans les règles de l'art. Elisabeth s'est beaucoup inspirée du film parce qu'ils avaient vraiment recréé les décors de l'époque. Et donc, c'était une très bonne référence. Le Cotton Club, pour le préciser à nos auditeurs, à l'époque, était donc uniquement autorisé aux blancs, les noirs n'avaient pas le droit d'y aller. Ils faisaient des représentations, les artistes sur scène étaient noirs, mais pas les clients. Alors, ce qui est intéressant en fait dans le Harlem de l'époque, notre histoire démarre en 33, mais Stéphanie Sinclair s'est installée à Harlem en pleine Harlem Renaissance, qui a commencé à peu près en 1919 après le Red Summer qui a vu le lynchage et la mort de beaucoup de Noirs. Il y a eu un mouvement d'effervescence culturelle et intellectuelle. Les premiers intellectuels noirs sont publiés dans des journaux de blancs. Beaucoup d'artistes vont trouver leur essor à cette période. On rend hommage à Thelonious Monk, par exemple.
Qui en est à ses débuts. C'est un tout jeune. Et alors, je sais pas, parce qu'on a un peu l'impression en vous lisant que Stéphanie Sinclair a donné un petit coup de pouce, quoi. Thelonious Monk, c'est vrai ou c'est attesté ou bien c'est pour le coup du roman, roman.
C'est du roman, mais c'est une possibilité parce que c'est quelqu'un qui, évidemment, était à Harlem.
À
cette période-là, elle habitait dans le même immeuble que W.E. Du Bois, qui est donc un immeuble qui existe toujours sur Edgecombe Avenue.
Voilà, et qui est aussi dans la BD encore.
Absolument.
Qui était un des premiers intellectuels reconnus aux États-Unis, qui a écrit un ouvrage majeur, qui était aussi un fondateur de la NAACP, cofondateur.
Alors, NAACP, il faut peut-être expliquer.
Ah, pardon.
National African American.
Oui, mais en français, ça ferait quoi?
C'est une association pour les Noirs
américains. Pour défendre les droits civiques des Noirs américains, des Afro-américains, dirait-on aujourd'hui.
Absolument.
Voilà, il y a aussi Charles Alston, le peintre, le photographe James Van Der Zee. C'était important pour vous, justement, de nourrir votre album avec des personnages réels?
Oui, c'est
important. Outre votre héroïne, évidemment.
Oui, bien sûr. C'est important parce qu'on voulait vraiment mettre à plat et donner une ambiance à Harlem, avec la musique, avec tout ce que ça compte d'intellectuel. On est à la fin, finalement, de la Harlem Renaissance, parce qu'en 33, c'est déjà fini après le crash boursier en 29. Mais c'était important pour nous de vraiment donner l'impression au lecteur d'y être encore.
Et aussi de rendre hommage à ces gens dont l'empreinte est encore présente à Harlem et qui ont participé à construire l'identité noire dans le nord de l'Amérique à cette époque-là. C'était une façon de les célébrer et aussi de raconter l'importance de la culture, aussi de la transmission, de tout ce qui se passe quand l'économie le permet aussi.
Harlem Speaks, Duke Ellington et son orchestre dans VMDN sur RFI. Duke Ellington qui était l'une des grandes figures du Cotton Club, hein, où vous nous emmenez dans votre album Queenie, la marraine de Harlem, que vous publiez Aurélie Lévy et Elisabeth Colomba aux éditions Anne Carrière. Je voudrais que vous nous commentiez justement, Elisabeth Colomba, la planche qui se trouve à la page 85, où l'on voit précisément de l'extérieur ce Cotton Club.
Ah oui, alors c'est une planche effectivement extérieure du Cotton Club où... on voit sur l'affiche que Duke Ellington va jouer le soir même. Donc tout le monde essaie de se garer, de se précipiter. Les gens sortent des voitures. Il y a une foule assez considérable, dirais-je. Il y a du bruit, il y a des klaxons. Donc je voulais vraiment mettre une ambiance assez électrique dans une nuit de Harlem.
Alors cette planche, moi, qui m'a vraiment beaucoup impressionné à cause justement de cette alternance entre le noir et le blanc. Comment est-ce que l'on dose justement ce côté bicolore dans une planche comme celle-ci ?
Alors, il n'est pas facile à doser, donc c'est un peu, on marche un peu à tâtons. Donc d'ailleurs à ce moment-là, je crois que c'est une des seules planches où j'ai demandé à Aurélie est-ce que c'est lisible, parce que j'avais peur ou d'en faire trop, ou de pas voir les personnages assez, ou de faire toutes les voitures en noir et tous les personnages en blanc. Enfin, c'était un peu difficile de trouver une balance, mais bon, voilà, que j'espère avoir réussi.
Et quand on tourne la page, on tombe sur un personnage, là aussi un personnage réel, qui a réellement existé, qui a été le patron du Cotton Club, Jack Johnson, un ancien boxeur, donc un homme qui a vraiment compté dans la prise de conscience hein, de l'afro-américanisme, Aurélie Lévy, on peut dire ça comme ça.
Ouais, absolument. Alors, il était un des premiers propriétaires des lieux, qui a changé de nom. Il faut quand même préciser aussi pour que les gens comprennent que Harlem à l'époque, c'était le quartier le plus branché, fréquenté par tous les blancs nantis de la middle class, juste après Paris. Donc c'est dire la période très insolite et singulière qu'Harlem vivait à ce moment-là. Et Jack Johnson, boxeur, c'était important pour nous aussi qu'il soit là. D'abord pour lui rendre hommage, mais aussi parce que Stéphanie Sinclair n'hésitait pas à boxer les gens avec qui elle avait des contentieux.
Oui.
Ou à menacer de les boxer. Oui. Et donc, on voulait que ce soit Jack Johnson.
Et lui-même était boxeur.
Exactement.
Premier noir champion du monde poids lourd, quand même.
Exactement. Hein. Et donc, on voulait qu'il soit présent. On aimait l'idée que ce soit lui qui l'ait formé. On trouvait ça beau. On ne sait pas si ça s'est vraiment passé, mais ça fait partie des choses qui ont une forme de véracité historique. Si vous voulez, les dates concordent, mais est-ce que vraiment c'est lui qui l'a formé à la boxe? Voilà, c'est ce qu'on a choisi en tout cas de...
Voilà, et c'est l'un des rares personnages afro-américains, Elisabeth Colomba, que vous dessinez avec du noir sur le visage. C'est toujours très délicat de poser ce genre de questions, mais c'est quand même important dans une BD en noir et blanc de faire sentir les traits afro-américains et en même temps la couleur de la peau. Là aussi, vous avez dû jongler, comment ça s'est passé? Stéphanie Sinclair, elle n'a pas ces ombres-là sur le visage.
Ben, oui, ça, j'ai dû jongler et Jack Johnson, je l'ai fait parce que je voulais vraiment qu'il se différencie des autres. Il se différenciait par sa taille, il était précurseur, c'était quelqu'un qui vraiment ne se laissait pas dicter par les idées de race, puisqu'il a eu des femmes noires, il après sa deuxième femme était blanche, il a d'ailleurs été mis en prison justement parce qu'il était marié avec une blanche. Donc je voulais vraiment le traiter différemment des autres. Et dans la bande dessinée également, dont vous verrez dans les flashbacks, et il y a aussi tous les gens qui sont un peu ce qu'on appelle des figurants dans la vie de Stéphanie Sinclair, qui sont complètement noirs, qui aussi rappellent cette image qui vient la hanter souvent dans ses cauchemars ou dans ses peurs. Donc il y a une manière de traiter les personnages physiquement qui racontent aussi un peu leur histoire.
Et puis,
allez-y.
Il y a une autre figure qui est celle du Dorli, qui représente un petit peu toute la part voudou aussi, qui la hante, qui est très foncée aussi.
Oui, alors cette part voudou, justement, puisque vous l'évoquez maintenant, là aussi, elle est... montrer, enfin elle est plus suggérée que montrée quoi finalement, hein, notamment à travers les poules par exemple. Donc voilà, donc là aussi, on a un peu l'impression que vous l'avez fait de façon très très pastel quoi, comme si il fallait montrer plus une toile de fond que quelque chose de profond. Elisabeth Colomba.
Ben le vaudou, c'est pas, parce qu'encore une fois les flashbacks, c'est un peu les souvenirs de Stéphanie.
Oui.
Ce sont
donc
les souvenirs.
Toujours avec donc ce côté grisé
un peu
qu'on évoquait tout à l'heure.
Les personnages qui n'ont pas été importants dans sa vie, elle ne les voit pas vraiment. La religion n'était pas importante vraiment pour elle, mais ça vient quand même la hanter parce que ça fait partie de sa culture. On le voit lorsqu'elle reçoit aussi ses les pieds de chèvre, je crois. Donc, ça vient en touche, mais ça vient pas non plus étouffer sa vie.
Bon, il y a aussi le personnage de Father Divine, là aussi,
puisqu'on
parle de religion, personnage mythique et en même temps controversé.
Absolument, qui était prêcheur, qui avait des missions, qui nourrissait les gens, mais qu'on a accusé aussi de prosélytisme, il fallait qu'il soit là aussi, parce que la religion était très importante et ses preachers amassaient tellement d'argent qui se substituait aux services sociaux et influençait aussi la psyché collective à l'époque.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avec Elisabeth Colomba et Aurélie Lévy pour leur roman graphique Queenie, la marraine de Harlem, chez Anne Carrière. Alors la marraine, autrement dit le parrain au féminin, hein, qui sort donc de prison en 1933. C'est par cette scène que vous avez voulu démarrer votre récit. Pour quelle raison, Aurélie Lévy?
On avait à cœur de raconter une histoire trépidante. Et donc il fallait que les enjeux soient annoncés dès le départ. Et on s'est dit, la fin de la prohibition, c'est sensationnel parce que du coup, ça veut dire que l'argent de l'alcool se tarit, que les grands mafieux italiens, juifs, irlandais veulent récupérer son affaire, qu'elle a un temps précis pour sauver son affaire, son business, ses acolytes. Et là, ça nous donne, si vous voulez, un cadre fantastique pour ensuite expliquer l'époque et puis faire des flashbacks sur son enfance pour comprendre qui elle est. Mais c'était vraiment, voilà, dans ce souci de raconter une histoire entertaining, comme on dit en anglais, et qui se lie comme on regarderait un film hollywoodien.
Oui, et la première planche, alors c'est toujours important la première planche, Elisabeth Colomba, on parlait de la couverture tout à l'heure, c'est évidemment ce qui donne envie d'ouvrir et peut-être d'acheter l'album. Mais quand on rentre dans le récit, la première planche est aussi très très importante, elle est complètement muette, cette première planche.
Oui, alors c'est très cinématique, c'est comme ça.
Absolument. Cinématographique. Voilà.
À chaque fois je me trompe.
Oui, oui, mais on comprend bien, vous savez, vous inquiétez pas.
Si, donc c'est cinématographique, donc encore une fois, c'est un peu mon influence de storyboardiste, où... Et pour ça, c'est parce que lorsqu'on ne voit pas de texte sur une page, on est intrigué.
Absolument.
Voilà. Donc, c'était le meilleur.
Donc, on s'arrête et donc on a envie de comprendre.
Absolument.
Et on fouille avec les yeux.
Exactement. Et du coup, on tourne la deuxième page. Et c'est à chaque fois créer quelque chose qui fait que vous voulez tourner la page.
Alors forcément, hein, on croise dans vos pages de grands noms de la pègre new-yorkaise, hein, évidemment, comme Lucky Luciano ou Dutch Schultz. Je garantis d'ailleurs aux auditeurs que la bataille va faire rage entre eux avec des méthodes qui vont de la menace à l'élimination physique en passant par des choses... pas très très agréable, et on peut dire que Stéphanie Sinclair, elle donne pas sa part au chien non plus.
Mais non, et puis monde violent, réponse violente, elle était sanguinaire, elle était cruelle, elle était stratège, elle avait toutes les qualités nécessaires à la survie à cette époque. Et d'ailleurs, faut le préciser, elle a fait quelque chose d'extraordinaire, elle est restée en vie là où tous ces hommes sont morts jeunes. Elle est morte de vieillesse, mais pour ce faire, il fallait qu'elle aussi soit violente parfois, et on a adoré justement sa complexité, ce côté justement très concret en fait de sa personnalité.
Mais ça peut étonner avec les yeux d'aujourd'hui. Être une femme dans ce milieu-là, c'est un atout, c'est un handicap.
Alors, Elisabeth aura sa réponse. Moi, je vous dirais que ce n'était absolument pas un atout, et qu'il a fallu une grande témérité et une grande intelligence pour survivre. Je pense que son accent français à couper au couteau, et peut-être le fait qu'elle soit martiniquaise, l'a distinguée des autres femmes noires de l'époque. Donc ça a peut-être joué, mais c'est vraiment à son mérite, parce que Elisabeth, qu'est-ce que tu en pensais? C'était absolument pas un atout à l'époque.
Non, je vais d'ailleurs rejoindre ce que tu dis. Ce n'est pas un atout. C'est, je dirais même, ça jouait contre elle, à vrai dire. Elle avait aussi, elle n'a pas eu de relation. En tout cas, on ne lui connaît pas d'enfant. Je pense qu'elle ne voulait pas en avoir. Peut-être pour des raisons où ça, on peut faire pression lorsqu'on a des gens qu'on aime autour de soi. Donc, elle a un peu fabriqué sa vie pour vraiment s'en tirer et ne pas avoir de points faibles, d'une certaine manière.
Bon, il y a quand même un personnage qui s'appelle Bumpy. Ouais. Alors, Bumpy, c'est son homme de main. C'est un peu son confident, mais c'est peut-être un petit peu plus aussi. Là aussi, vous jouez un petit peu sur l'ambiguïté, quand même, dans la relation qu'il y a entre Stéphanie Sinclair et ce fameux Bumpy.
Ambiguïté, c'est le mot juste. Je pense que même jouer là-dessus, je pense que Stéphanie elle-même jouait sur l'ambiguïté de leur relation. Avait-il été amant? C'est difficile à dire. Bumpy Johnson, on le connaît tous. Il y a même une série qui lui est dédiée actuellement. C'est un notoire gangster lui aussi. À l'époque, il était très jeune et c'est un peu elle qui l'a formé. Et elle l'avait choisi aussi parce qu'il avait la réputation d'être violent. Il avait comme ça une carrière costaude. Mais leur relation est celle d'un amour courtois, comme dirait Elisabeth, un peu à l'ancienne.
Presque familial, presque une tante comme un neveu. Ils avaient quoi, une dizaine d'années de différence, peut-être une quinzaine d'années. Donc il y avait toujours une possibilité, évidemment, de quelque chose de romantique ou de sensuel. Mais bon, ce n'est pas expliqué. Tout encore est très flou. Mais elle se servait de lui un peu comme buvard, on va dire.
Comme buvard, ouais. Ah oui, c'est-à-dire pour éponger.
Pour éponger les personnes qui voudraient peut-être l'attaquer physiquement, ou en tout cas, il était peut-être dissuasif.
Alors, il y a aussi un autre personnage clé, c'est le commissaire O'Sullivan, qui va faire de Queenie une affaire personnelle. On va le retrouver dans une scène de l'album que notre réalisateur Jérémy Bessé a mise en onde. La scène, il faut l'expliquer un petit instant, la scène se passe donc dans la rue, au pied de ces escaliers de secours typiques de New York. Il va la surprendre, ce commissaire O'Sullivan, il va lui prendre le bras et même l'embrasser de force. Et elle va se défendre. Nous sommes à la page 58 de l'album.
Ta petite pirouette médiatique ne m'impressionne pas.
Je ne te paie pas pour me donner des leçons.
Tu me paies pour que tes jolies petites fesses n'atterrissent pas en prison. Tu me dois le respect. Je pourrais te surprendre agréablement si tu m'en laissais l'occasion.
J'en doute fort, monsieur le commissaire de police. Non ! Lâche-moi ! Vite ! Fonce ! Fonce ! Fonce !
Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais le tuer.
Non ! On a encore besoin de lui !
Comment tu fais ?
Je suis une femme et un gangster, Bumpy. Je dois faire avec beaucoup de choses. On doit se concentrer sur Schultz. On n'arrivera pas à se débarrasser des Schultzers sans appui.
Je peux y arriver, tu sais. Je peux tous les tuer.
Je préférerais qu'il se tire lui-même une balle dans le pied.
Sois franc, Stéphanie. Tu recules devant l'inévitable.
Pas cette fois.
Voilà, et ces mots, pas cette fois, ils sont écrits donc dans une bulle, dans un phylactère juste à côté des yeux vraiment en gros plan hein, de Stéphanie Sinclair, Elisabeth Colomba. Là, on a vraiment une scène d'action. Il n'y en a pas tant que ça, non. D'ailleurs, des scènes d'action dans l'album. Il en fallait une.
Il en fallait une, absolument. En plus, entre elle et le commissaire, je trouve que c'est important parce que ça montre un peu leur ambiguïté et un peu un push-pull entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a une relation qui, elle, considère que c'est une relation professionnelle et lui, évidemment, il veut plus. Enfin, évidemment.
Oui.
Il veut plus.
C'était important aussi de montrer qu'elle pouvait provoquer le désir, justement, et que être une femme aussi, c'était pas neutre dans l'histoire, et
je suis une femme et un gangster,
hein,
dit-elle à Bumpy pendant la fuite en voiture.
Et que cet homme qui veut à tout prix l'arrêter et la neutraliser a envie d'elle, en fait, la désire malgré lui.
Alors ce personnage, O'Sullivan, c'est un personnage fictif ou c'est un personnage qui a réellement existé ?
C'est un personnage fictif.
On l'a vraiment inventé, on l'a beaucoup travaillé, ce personnage.
Oui, avec quel contour, justement ? Parce que vous le montrez dans sa vie professionnelle, mais aussi dans sa vie privée.
Oui, on voulait montrer qu'il n'était pas le même, d'ailleurs, dans sa vie professionnelle, que ce qu'il était de la... La violence qui émanait de lui s'expliquait aussi de par son histoire. On avait vraiment envie de montrer sa solitude aussi. En fait, il n'y a aucun personnage noir ou blanc dans cette histoire. Ils sont tous gris, au destin gris. Et c'était important que même son nemesis, comme on dit en anglais, c'est-à-dire son ennemi juré, soit lui aussi complexe. Et qu'on ait accès au contour de sa personnalité et pas juste...
Alors c'est vrai qu'il y a énormément de personnages. Comment faire en sorte que le lecteur ne s'y perde pas ? Parce que il se trouve qu'à la fin de l'album, il y a justement un petit dossier hein, avec
lexique.
Les personnages historiques qui permet justement à chaque lecteur de se référer pour avoir des balises d'une certaine façon.
Absolument.
Elisabeth Colomba.
Je pense visuellement, il faut évidemment les dessiner de manière assez précise.
Caractéristiques, on les reconnaisse tout de suite d'une scène à l'autre.
Absolument, et aussi
suffisamment répété aussi pour qu'ils soient ils s'imprègnent dans le cerveau des gens. Donc il y a un rythme à respecter pour qu'un personnage, mais c'est pareil dans le cinéma, pour qu'un personnage entre en mémoire.
Suffisamment de fois pour qu'on comprenne son rôle. Et aussi, ils ont des personnalités différentes. Donc on comprend évidemment que cette personne fait telle chose et l'autre personne fait telle chose, leur travail. Donc c'est comme dit Aurélie, c'est un rythme. C'est-à-dire, lorsqu'on a fait le scénario, on a fait la trame, on regardait s'il y avait assez de ce personnage-là pour qu'on puisse s'intéresser à lui.
Mais vous avez fait... Pardon ?
Et le reconnaître. Oui. Donc, on comptait le nombre de pages où il était présent. On a fait un travail très minutieux là-dessus, un travail dans l'écriture du scénario, parce qu'il faut peut-être préciser aussi que Elisabeth et moi avons écrit un scénario de long métrage. On l'a écrit en anglais et en français. Donc, ce roman, on l'a écrit dans les deux langues. Et on a commencé en anglais parce que c'était plus naturel.
C'est-à-dire qu'il y avait un synopsis avant de passer au storyboard ?
Il y a eu carrément un scénario de long métrage.
Et
c'est ce qui nous a permis d'ailleurs de vendre le livre, enfin les droits d'adaptation du livre, avant même que le livre ne sorte à Hollywood, à un grand studio hollywoodien. Donc il y avait un scénario vraiment ficelé, construit, écrit. Et c'est sur la base de scénario qu'Elisabeth a croqué les premiers dessins. Donc, si vous voulez, et on a fait très attention dans le scénario à ce que chacun soit suffisamment présent pour qu'on le reconnaissent, pour qu'on comprenne, pour que les lecteurs ne se perdent pas.
Alors, comment vous vous êtes documenté, justement, pour pouvoir dessiner tout ça plus précisément ? Par exemple, pour les costumes, vous êtes parti d'où exactement ? Vous êtes parti de photos d'époque ? Vous êtes parti de films de cinéma, de documentaires ?
Alors, il y a eu beaucoup de... Il y avait différents supports. J'ai eu effectivement des photos, des costumes. Je me suis beaucoup inspirée de Chanel de l'époque. C'était à la même époque. J'aimais bien m'inspirer d'elle parce que c'était une couturière et une designer française. Ça me donnait un côté un peu français sur Stéphanie. Je me suis aussi inspirée de tenues de musées. Beaucoup sont dans les musées. Donc, le Met a une grande collection de mode et aussi de photos reportages des années 20. Donc, c'était très pratique pour moi, des photos de gangsters, toutes les voitures, toutes ces choses-là. Donc, c'était un gros travail de recherche visuelle.
Oui, ça, j'imagine, mais c'était important pour vous que votre dessin soit réaliste, c'est-à-dire soit réellement le reflet de l'époque. Vous avez poussé la minutie jusqu'aux couleurs, au type de pneus des véhicules, par exemple.
Absolument. On peut reconnaître des vêtements que j'ai dessiné et on peut reconnaître, si les gens s'y connaissent, ils peuvent reconnaître le designer.
Alors, il y a aussi un roman qui est paru il y a quelques années, un roman de Raphaël Confiant, hein, Stéphanie Sinclair, la reine de Harlem au Mercure de France. Il vous a été utile, Aurélie Lévy ?
Alors, on l'a, évidemment, on l'a lu, on l'a admiré. Nous sommes de grandes fans de Raphaël Confiant. On vient de lui envoyer d'ailleurs le roman graphique. Il était à Paris il n'y a pas longtemps pour un autre livre. Alors, notre histoire est complètement différente de la sienne, mais elle est passionnante aussi. Elle s'inscrit légèrement dans un autre cadre parce que nous, on se penche sur une période très spécifique. Son histoire est plus chronologique, si je puis dire. Mais on retrouve les mêmes éléments puisque c'est la même époque. On sait qu'elle est arrivée à Ellis Island. Mais on a vraiment créé d'autres personnages et puis on avait déjà en vue aussi tout ce qui était de l'ordre de l'adaptation. Donc on avait envie de créer des personnages secondaires qui puissent avoir des spin-offs et qui puissent être développés par la suite. Donc la démarche était un petit peu différente, mais il est superbe ce livre de Raphaël Confiant.
Donc c'est-à-dire que d'un bout à l'autre de votre réflexion, vous aviez déjà en tête l'écran, donc la télévision ou le cinéma ?
On l'espérait. On
avait la BD en tête, mais on avait aussi une possibilité de 2, 3 ou plusieurs volumes de bande dessinée aussi.
Donc ça veut dire que là, il y aura d'autres.
Écoutez,
d'autres albums à venir.
Elisabeth va retourner à la peinture quelques temps parce qu'elle a deux expositions qui se préparent. On va voir comment ça se passe. On adorerait évidemment, mais tout dépend du temps, de la réception de Queenie aussi. On va voir comment tout ça se passe. Mais il y a des personnages qui méritent vraiment d'être leur propre histoire et puis même la sienne, si vous voulez.
Parce que la fin, elle n'est pas si ouverte que ça hein, dans l'album. Un épilogue, d'ailleurs, où on voit effectivement Stéphanie Sinclair âgée, donc ranger des voitures, dirait-on.
Exactement, mais on réserve quand même des surprises pour la suite.
Il y a des surprises. Okay, voilà.
D'accord. Bon, l'autre surprise, ce sera, mais qui n'en est pas une, puisque vous l'avez déjà signalé, c'est que donc, ce récit devrait... Il faut toujours être prudent, mais devrait se retrouver à l'écran. Alors au cinéma ou en série ?
Ça, on ne sait pas encore. Ça peut être... je pense qu'ils pensent tous, ils penchent plus ou moins vers la série, mais ça peut être les deux.
Avec un réalisateur américain, une équipe américaine.
On peut vous dire, vous savez, on est un petit peu malheureusement
J'essaie d'y aller pas à pas.
Écoutez, il y a une grande star américaine qui a signé pour jouer le rôle. Elle est très enthousiaste, donc c'est vraiment quelque chose de positif pour nous. Après, on verra bien, mais je pense qu'ils l'annonceront eux. Ça viendra d'eux, et puis d'ici quelques mois, je pense qu'ils ils donneront un peu plus de précision. Pour l'instant, on est un petit peu restreinte dans ce qu'on peut dire.
Mais est-ce que vous avez votre mot à dire, justement, sur l'adaptation, sur la façon dont la BD va être ou pas à l'écran, sur le choix des personnages, sur le casting ou
nous serons consultantes. Je pense que, si vous voulez, Elisabeth, l'histoire est faisant tellement écho à celle d'Elisabeth, je pense qu'ils ont le respect de ça, surtout par les temps qui courent, et de l'importance d'être juste dans la dépiction de la Martinique. Et puis on a affaire à une histoire qui, si vous voulez, nous amène à réfléchir sur deux formes d'oppression différentes, celle qui a eu lieu par la France aux Antilles et celle de liée à l'histoire des Noirs aux États-Unis. C'est passionnant et c'est une opportunité de le traiter avec justesse. Et je pense que pour cette raison,
Oui, je pense qu'on fera office de consultant, plus si possibilité, évidemment, mais je pense qu'ils nous ont ouvert la porte et on verra ce qu'ils peuvent nous offrir.
Eh bien, on va suivre ça de très près. Merci beaucoup à toutes les deux, Elisabeth Colomba et Aurélie Lévy, en attendant le film. Donc, votre album Queenie, la marraine de Harlem, est disponible, je le rappelle, aux éditions Anne Carrière. La musique du compositeur américain George Antheil, reprise dans le film Ballet mécanique de Dudley Murphy et Fernand Léger, réalisé en 1924, un des chefs-d'œuvre de l'art expérimental dans VMDN sur RFI. À propos de Fernand Léger, justement, qui a dit qu'on ne pouvait pas entendre les couleurs? Le musée national Fernand Léger nous prouve le contraire avec leur nouvelle création, la mixtape Fernand Léger, en partenariat avec la boîte de production narrative RFI Labo et le soutien de Matmut pour les arts, Fanny Gelb.
Je suis profondément attaché à mon époque, dans mes tableaux, dans ma peinture. Et inévitablement, dans mes relations, aussi bien littéraires que musicales, je suis aussi lié au fait actuel.
Le musée nous offre à voir des œuvres qui pétillent des passions de leurs auteurs, mais en silence et en suivant un chemin balisé. Comment alors susciter l'intérêt, notamment celui des jeunes? C'est exactement la question à laquelle a tenté de répondre le musée Fernand Léger de Biote, dans le sud de la France. Résultat, une mixtape de 20 minutes qui mêle musique, archives et interviews et nous emmène instantanément dans la vie et l'œuvre du peintre. Selon Guy Diglemarié, chef de projet musée, l'idée est de faire découvrir ou redécouvrir l'artiste par des sons et une dynamique qui lui correspondent.
Les publics jeunes adultes, adolescents, sont quelquefois plus difficiles à rencontrer. Et cette idée d'aller les chercher par le biais de la musique, c'est une manière en fait de connaître cet artiste de manière très facile, puisqu'on est emmené par la musique, on est dans une intimité avec le personnage. C'est une expérience sonore assez unique et qui fait qu'elle est complète et très sensorielle.
Le départ, c'est un crayon, un bout de papier et je ne sais pas trop quoi, du temps. Du temps. Oui, du temps.
Et le choix de la musique a été très naturel. Gaïdig le marié.
La peinture de Fernand Léger, elle est très rythmée, elle est tout en contraste, tout en mouvement. Cette correspondance avec la musique, elle est assez évidente.
Musique composée par Roman Couder. Un jeune musicien qui nous explique son processus de création.
On n'avait que les archives de Fernand Léger au début. Et par rapport à ça, j'ai commencé à construire une sorte d'atmosphère. Petit à petit, il y a les interviews qui se sont ajoutées. C'était un peu comme être DJ, en fait, dans un sens, et de faire passer les sons les uns après les autres, avec une belle transition.
Ces interviews sont complétées par d'autres éléments sonores.
On a à la fois des archives qui sont issues de l'INA, on a des interviews d'experts de Fernand Léger et des sons d'ambiance du musée et de l'environnement méditerranéen à Biote.
Et tout cela a été écouté, modelé et organisé par Antoine Couder, qui en a fait une histoire musicale harmonieuse.
J'ai écrit et produit la mixtape. Le premier rôle était de position entre les différentes archives de Fernand Léger. Et ce que j'ai essayé de mettre en musique avec les témoignages des conservateurs, donc de créer deux niveaux, je dirais, de contact avec l'œuvre. Notre but, c'était quand même de transposer, je veux dire, l'univers de Léger dans un univers musical d'aujourd'hui.
Du moment que vous donnez des couleurs à des murs, la distance visuelle pour l'homme qui l'habite n'est plus. C'est relatif.
Une méthode astucieuse pour toucher un public plus jeune, certes, mais pas que.
Cette mixtape, alors elle peut s'écouter en dehors du musée, en allant chercher des publics qui sont éloignés de la culture, géographiquement. Et ensuite, eh bien, pourquoi pas en les faire, de pouvoir venir au musée et d'avoir envie de venir les découvrir.
Une belle invitation qu'on ne saurait refuser, car après avoir vécu 20 minutes aux côtés du peintre, on n'a qu'une seule envie, se rendre à Biote devant les tableaux de l'artiste et à nouveau écouter Fernand Léger.
Reportage de Fanny Gelb pour VMDN dans un instant. Le journal sur RFI, on se retrouve demain avec l'actrice italienne Laura Morante pour la sortie en français de son recueil de nouvelles intitulé « Quelques indélicatesses du destin », livre paru aux éditions Rivage, et vous m'en direz des nouvelles.
RFI, la sélection.